Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
19h30, GMT, 14h30, ici à Washington. Bonsoir et bienvenue de nouveau sur VOA Afrique, dans le monde aujourd'hui. Je suis Alexandrine Franc-Lognon. À la une de l'actualité, une enquête ouverte en République du Congo, où 37 jeunes ont été tués dans une bousculade lors d'une campagne de recrutement de l'armée dans un stade de Brazzaville. Burkina Faso, 15 civils, dont 3 supplétifs de l'armée, ont été tués dans des attaques simultanées de djihadistes présumés dans l'est du pays. La junte au pouvoir en Guinée ordonne de nouvelles poursuites contre l'ancien président Alpha Condé pour des faits présumés de trahison. Et vous aurez l'économie et la page des sports. Une enquête judiciaire a été ouverte au Congo après la mort brutale d'au moins 37 jeunes dans une bousculade survenue la veille lors d'une opération de recrutement de l'armée dans la capitale Brazzaville. Des milliers de jeunes se trouvaient dans le stade lorsqu'une bousculade s'est produite. Les précisions de John Linden.
Outre les 37 morts, le bilan provisoire établi par les services d'urgence fait état de nombreux blessés, indique un communiqué de la cellule de crise mise en place par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. De nombreuses images partagées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de corps sans vie déposés à la morgue municipale, ainsi que des blessés admis au centre hospitalier universitaire de Brazzaville et à l'hôpital militaire. L'armée congolaise a annoncé la semaine dernière le recrutement de 1500 jeunes de 18 à 25 ans. Lundi tard dans la nuit, des candidats ont forcé le portail du stade Michel Dornano où se déroule le recrutement dans le centre de Brazzaville. Une bousculade s'en est suivie où de nombreuses personnes sont tombées et ont été piétinées, selon des habitants.
Et nous reviendrons sur ce drame à Brazzaville dans la partie magazine. Au moins 9 personnes ont été tuées ce matin dans une nouvelle attaque dans l'ouest du Cameroun. Les assaillants ont pris d'assaut le marché du village de Bamingham, dans le département de Bambuto, à l'aube. L'attaque a été attribuée à des séparatistes armés de la minorité anglophone. Depuis fin 2016, un conflit meurtrier oppose dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest des groupes armés indépendantistes aux forces de sécurité, chaque camp étant régulièrement accusé de crimes contre les civils par les ONG et l'ONU. Au Burkina Faso, 15 civils, dont 3 supplétifs de l'armée, ont été tués samedi dans des attaques simultanées attribuées aux djihadistes dans 2 quartiers de Diapaga dans l'est du pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après Kondja Pierre Nyonli, porte-parole d'organisation de la société civile, les personnes tuées ont été enterrées dimanche au cimetière municipal de Diapaga dans l'est du Burkina. En hommage à ces hommes tombés les armes à la main, une journée ville morte est observée sur toute l'étendue du territoire communal de Diapaga ce mardi, ajoute Kondja Pierre Nyonli qui précise que marchés, écoles et tous les services publics restent fermés. Une source sécuritaire a indiqué que la riposte des forces de défense a permis de repousser les assaillants et d'en neutraliser plus d'une cinquantaine et démanteler plusieurs de leurs bases. Depuis 2015, les attaques terroristes ont fait plus de 17 000 morts civiles et militaires, dont plus de 6 000 depuis le début de l'année 2023, selon l'ONG ACLED. Ces violences ont entraîné plus de 2 millions de déplacés internes.
En Guinée, la junte au pouvoir a ordonné d'engager de nouvelles poursuites contre l'ancien président Alpha Condé qu'elle a renversé en 2021, selon une lettre du ministre de la Justice adressée au procureur général de Conakry, Nanit Talani.
Il vous est enjoint d'engager des poursuites judiciaires pour des faits présumés de trahison, association de malfaiteurs et complicité de détention illicite d'armes et munitions contre le professeur Alpha Condé, ancien président de la République, a écrit le ministre de la Justice, Alphonse Charles White. Il affirme qu'en lien avec Foudé Moussa Mara, un célèbre blogueur, supporter de M. Condé, l'ancien président en exil en Turquie, a mis les moyens en vue de se procurer des armes, munitions et matériel connexe. La lettre du ministre guinéen de la Justice ne précise pas la nature ni la quantité d'armes. Alpha Condé est déjà poursuivi pour des faits présumés de corruption, assassinat, actes de torture, enlèvement et viol lors de la répression des manifestations politiques. Élu pour une première fois en 2010 et réélu en 2015, la volonté d'Alpha Condé de briguer un troisième mandat en 2020 avait soulevé une forte contestation réprimée jusqu'à sa chute en 2021.
Une voiture a foncé sur une foule célébrant la victoire du président élu du Libéria, Joseph Boakai, à Monrovia hier soir, tuant au moins 2 personnes et en blessant environ 18 autres. Les faits sont survenus quelques heures seulement après que la Commission électorale nationale a officiellement annoncé que M. Boakai avait défait le président sortant George Weah au second tour du 14 novembre. Le chauffeur présumé de la voiture a été arrêté selon la police. Aucune indication n'a été donnée pour expliquer son comportement. La Somalie dispose d'un an pour expulser du pays, le groupe militant Al-Shabaab lié à Al-Qaïda, a déclaré mardi le président Hassan Sheikh Mohamoud, alors que la date limite pour le départ des forces de maintien de la paix de l'Union africaine se profile à l'horizon du mois de décembre. Le groupe Al-Shabaab mène une insurrection brutale contre le gouvernement somalien depuis 2006 dans le but d'établir son propre gouvernement basé sur une interprétation stricte de la charia islamique. Le président Mohamoud, qui en est à son 2e mandat, a déclaré en août qu'il souhaitait l'éliminer d'ici le début de l'année prochaine. En Éthiopie, le gouvernement a déclaré que les derniers pourparlers de paix avec l'armée de libération Oromo, un groupe rebelle de la région la plus peuplée du pays, s'étaient achevés sans accord. C'était la 2e fois que le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed et l'OLA s'asseyait cette année pour mettre fin à une insurrection qui dure depuis 5 ans dans la région rebelle de Oromia, classée organisation terroriste par Addis Abeba. L'OLA combat le gouvernement depuis 2018 après s'être séparée du Front de Libération Oromo lorsqu'elle a renoncé à la lutte armée. Pour l'instant, l'OLA n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Parlons maintenant de la guerre entre Israël et le Hamas qui entre aujourd'hui dans son 46e jour. Les appels à un cessez-le-feu se multiplient pendant que les opérations militaires d'Israël à Gaza ne connaissent aucun répit. Les derniers développements avec Mohamed Oumfa.
2 des 33 bébés prématurés qui devaient être évacués de l'hôpital Al-Shifa dans le nord de la bande de Gaza sont morts pendant la nuit qui a précédé leur évacuation, a indiqué l'OMS. 28 bébés ont été transférés lundi en Égypte en passant par le point de passage de Rafah. L'UNICEF a prévenu qu'une véritable tragédie sanitaire se profile en raison du manque de carburant et d'eau. Les négociateurs travaillant à faire libérer les otages n'ont jamais été aussi proches d'un accord, a déclaré un représentant du Qatar. Nous souhaitons aussi que cette médiation aboutisse à une trêve humanitaire, a-t-il ajouté. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a rencontré lundi soir des proches des otages, a fait état des progrès et dit espérer de bonnes nouvelles bientôt. Nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve, a déclaré lundi le chef en exil du Hamas, Ismaïl Haniyeh. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a accusé Israël de crimes de guerre et de génocide à Gaza et réclamé un cessez-le-feu immédiat et complet à l'ouverture d'un sommet virtuel des BRICS. Le président chinois Xi Jinping a appelé à une conférence internationale pour la paix pour régler le conflit israélo-palestinien.
Les États-Unis condamnent le tir par la Corée du Nord d'un lanceur spatial utilisant une technologie de missile balistique. Ce tir est une violation flagrante des résolutions des Nations Unies et augmente les tensions et risque de déstabiliser la région, a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Elle ajoute que la porte de la diplomatie n'est pas fermée, mais Pyongyang doit immédiatement cesser ses actions provocatrices. Une fillette de 2 ans est morte et 8 personnes sont portées disparues à la suite du naufrage d'un bateau de migrants lundi près de l'île de Lampedusa. Il s'agit du premier port d'escale pour de nombreux migrants cherchant à rejoindre l'Union européenne. Dans un communiqué séparé, les gardes-côtes ont déclaré que 40 personnes et une jeune fille sans vie avaient été récupérées par des patrouilleurs lundi en fin de journée sur une falaise rocheuse de Lampedusa où elles étaient bloquées. Selon l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies, près de 2200 personnes sont mortes ou ont disparu depuis le début de l'année alors qu'elles tentaient ce voyage. Terminons par le Pérou où au moins 20 personnes sont décédées dans un nouvel accident d'autocar tombé dans un ravin de 300 mètres dans une région du nord. L'autocar s'est abîmé alors qu'il circulait sur une route secondaire dans la province de Corongo. L'accident a fait 20 morts et 6 blessés, a indiqué le centre régional des opérations d'urgence, soulignant que les opérations opérations de secours se poursuivent sur une zone difficile d'accès à plus de 3000 mètres d'altitude. Merci d'avoir suivi ce journal. Cette édition se poursuit avec le sport, l'économie et les magazines. Restez avec nous. Pour la suite de cette édition, la Minute Éco avec Nani Talani.
Les Seychelles vont recevoir un prêt de 33 millions de dollars de la BAD pour la phase 3 du programme d'appui à la gouvernance et aux réformes économiques. Ce projet va renforcer la viabilité budgétaire en améliorant la collecte des recettes fiscales et la gouvernance dans le secteur public et privé tout en luttant contre le blanchiment d'argent. La Banque africaine de développement a approuvé une prise de participation de 10 millions de dollars dans la société Damana Guarantee afin de soutenir l'utilisation des marchés de capitaux comme source alternative de financement à long terme pour les infrastructures en Afrique de l'Est. Damana sera domiciliée au Kenya et va soutenir l'accès au financement pour des secteurs comme le transport, l'eau, les énergies renouvelables et la gestion des déchets. Pour terminer, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, OPEP+, sont susceptibles d'étendre ou même d'approfondir les réductions de l'offre de pétrole l'année prochaine, après une chute de plus de 15% des prix du Brent. L'Arabie Saoudite, la Russie et d'autres membres de l'OPEP+ se sont déjà engagés à réduire leur production de pétrole d'environ 5 millions de barils par jour, soit environ 5% de la demande mondiale quotidienne.
Et pour la salle des sports, Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Alexandrine, bonsoir à tous.
Les rencontres de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026, zone Afrique, se poursuivent.
Oui, plusieurs matchs au programme ce mardi. Le Burkina Faso a battu l'Éthiopie 3-0 pour se repositionner dans le groupe A, dominé par l'Égypte. Belle opération pour le Rwanda qui s'empare de la tête de la poule C après sa victoire 2-0 devant l'Afrique du Sud. Toujours dans cette même poule, 0-0 entre le Bénin et le Lesotho. La Guinée a été surprise par le Botswana 1-0. Carton plein pour la Tunisie en tête du groupe H grâce à sa victoire 1-0 face au Malawi. 1-0 également pour l'Ouganda devant la Somalie. Hier, le Mali a concédé le match nul d'un but partout face à la République centrafricaine au stade du 26 mars de Bamako. Malgré ce résultat, les Maliens conservent la tête de la poule I. Éric Sékouchel, sélectionneur du Mali.
On a manqué de profondeur sur la première mi-temps. Les joueurs ont beaucoup donné, ils voulaient qu'on mette un petit peu plus d'intensité, donc c'est pour ça qu'on a changé les profils au milieu de terrain. Bien sûr qu'on peut toujours mieux faire. Après, on a manqué encore une fois de justesse technique dans le dernier geste sur la première mi-temps. Il fallait qu'on soit meilleur dans l'animation. On va se rattraper de ce point. À moi de trouver les meilleures solutions, la meilleure manière de travailler.
Éric Sékouchel, sélectionneur du Mali. Pour sa part, le sélectionneur de la République centrafricaine, Savoy Raoul, dit avoir fait une bonne opération.
Je crois que c'est une très grosse performance, surtout après notre échec, ce très mauvais match vendredi aux Comores. Il fallait qu'on réagisse d'abord en équipe, puis individuellement, et chaque joueur devait retrouver son vrai niveau. Et ce soir, on a vu les vrais fauves centrafricains. Et ça, c'est l'équipe que j'aime voir, c'est une équipe combative.
Savoy Raoul, sélectionneur de la République centrafricaine. Des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Cette seconde journée prendra fin demain, mercredi.
Mondial des moins de 17 ans, le Mali et le Maroc qualifiés pour les quarts de finale.
Après avoir passé un 5-0 au Canada, le Mali a refait ça 5-0 contre le Mexique en 8e de finale. Mahamoud Bari a signé un doublé. En quart de finale ce samedi 25 novembre, les Maliens vont affronter le Maroc qui a battu l'Iran en 8e de finale au tir au but. 4 tirs réussis contre 1 après un score d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. Autre qualifié pour les quarts de finale, l'Allemagne qui a battu les États-Unis 3-2 et qui fera face à l'Espagne. L'Argentine a pris le dessus sur le Venezuela 5-0. En quart, les jeunes Argentins vont défier le Brésil. Le dernier représentant africain, le Sénégal, fait face demain à la France dans les derniers matchs des 8e de finale de ce mondial des moins de 17 ans en Indonésie.
Merci Yacouba Ouedraogo. Fritz, Alexandrine Prologno à ce micro et merci à vous de nous accompagner dans Le Monde aujourd'hui. À présent, les magazines de ce mardi 21 novembre. Au Congo, Brazzaville, une bousculade a entraîné la mort de 37 jeunes dans la nuit de lundi à ce matin. Selon un premier bilan communiqué par le gouvernement, ces jeunes avaient pris d'assaut notamment le stade d'Ornano, le site retenu à Brazzaville pour le recrutement à l'armée. Le gouvernement a mis en place un comité de crise, tandis que le gouverneur de la République a ouvert une enquête de flagrance. Le reportage de notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
C'est à environ 1h du matin que les jeunes ont forcé les portails du stade d'Ornano, à la fois pour s'abriter de la pluie qui menaçait, mais aussi pour être les premiers à l'aube devant les rangs de recrutement, a expliqué le commandant du bataillon des sports de l'armée. Les militaires ont pendant de longues minutes empêché les jeunes à accéder au stade avant qu'une grosse bousculade ne s'en suive. Dans un communiqué publié ce mardi, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Thierry Mungala donne un bilan provisoire de 37 morts. Un rescapé rencontré dans les urgences du CHU de Brazzaville essaie d'expliquer les faits.
Après, on m'a dit que pour avoir le papier, il faut à environ 2 heures tardives. Dès qu'on a ouvert le portail, moi j'étais en deuxième position. Et il y avait un rang devant moi. Et les gars étaient tombés. Dès quand ils sont tombés, moi j'étais déséquilibré. Je suis tombé encore sur eux. Et toute la foule qui était derrière moi sont venus tomber sur moi. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Je me retrouvais dans l'ambulance.
À l'hôpital central des armées, le directeur de l'établissement, le colonel Guy Abel Mbongo, fait le point des cas reçus.
En fait, 64, mais 62 identifiés parce que les deux autres, c'était des corps en dépôt que nous avons envoyés directement à la morgue. Sur les 62 que nous avons reçus, on a gardé un seul qui a des petits soucis, hein, qui a ce qu'on appelle un petit traumatisme au niveau de la tête. On le garde pour raison de surveillance. Les 61 sont tous sortis. Ils n'avaient aucun problème majeur.
Le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Brazzaville, qui parle d'un drame, a ouvert une enquête de flagrance où militaires et jeunes rescapés seront entendus. André Okongakala.
C'est un drame. Un drame, c'est toujours un drame. Nous avons été à Ornano, visiter le site du drame. Nous avons entendu le chef de corps du bataillon de sport. Nous avons été également à l'hôpital de Talangaye où nous avons visité quelques blessés. Nous sommes passés au CHU et nous terminons par l'hôpital militaire. C'est un drame. Et je vous avais déjà dit qu'une enquête de flagrance venait d'être ouverte. Donc, attendant l'enquête, les résultats de l'enquête, mais c'est un drame.
L'armée a entrepris depuis la semaine dernière le recrutement de quelques 3000 jeunes. Cette campagne a entraîné une foule énorme devant les bureaux d'enrôlement. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
En République démocratique du Congo, la campagne est lancée en vue des élections générales du 20 décembre. Les territoires de Kwamout, dans la province de Maïdombe, Massissi et Rutshuru, au nord Kivu, ne pourront pas prendre part à ce processus à cause de l'insécurité. Les populations de la ville de Goma attendent plus que de simples promesses des candidats à la présidence. Reportage de Zanen Métizaïdi, notre correspondant à Goma.
Toutes les artères de la ville de Goma sont remplies d'affiches des candidats aux législatives nationales et provinciales. Les images des nombreux candidats à la présidence ne sont pas en reste. Pour Ketia Kasiviwe, étudiante, cette multitude de candidats reflète l'égoïsme politique des citoyens congolais.
Si c'était le développement qui motivait tout Congolais, je ne crois pas qu'il y aurait plusieurs candidats à la présidentielle, mais il y aurait plutôt beaucoup de soutien à certains candidats qui visent au moins à développer notre pays.
Dans ces candidatures à la présidence ont été retenues par la CENI et Matata Mponyo, ancien premier ministre, a annoncé son ralliement à Moïse Katumbi, un autre candidat de l'opposition.
Conformément à la décision de mon parti, je tiens à annoncer mon désistement de la course présidentielle de décembre 2023 en faveur des Moïse Katumbi Tchapwe.
Dans la journée, c'est lundi, Seth Kikuni, un autre candidat, s'est retiré pour appuyer l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, pendant que des autres candidats de l'opposition, à l'instar de Martin Fayoulou, ont déjà lancé leur propre campagne, une diversion de l'opposition qui, selon Michel Vicali, favorise le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi pour un deuxième mandat.
Déjà, si vous parlez de la métier candidature, nous voyons Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et les autres. Ils ont perdu la confiance. Voilà pourquoi je pense que c'est multitude. Je crois que c'est juste pour alimenter et pimenter les élections. Mais on est d'accord que Fachi part favori, il part remporter les élections 2023.
Loin des promesses des campagnes, les jeunes de Goma, réunis au sein du mouvement des fraternités, dont Alidor Pilipili et les coordonnateurs, estiment que les politiques qui, en démocratie, sont au service du peuple, devraient plutôt venir recueillir les cahiers des charges au sein des populations et faire le serment de les respecter une fois élus.
C'est nous, le peuple, qui sommes les boss et non les acteurs politiques. Ce n'est pas aux acteurs politiques de venir nous faire des discours, de venir nous dire des projets de société qui ne vont pas réaliser, mais plutôt c'est à nous d'élaborer un cahier de charges parce que c'est nous qui connaissons très très bien nos différents problèmes que nous sommes en train de traverser en République démocratique du Congo.
Cette phase des campagnes électorales ira jusqu'au 19 décembre à minuit pour laisser place aux élections toute la journée du 20 décembre. Zalem Netizaïdi à Goma pour VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Burkina Faso, les leaders d'organisations de la société civile et de syndicats réquisitionnés pour se rendre au front devront pour l'heure se rendre au front. Ils avaient critiqué ces réquisitions jugées arbitraires et demandent leur suspension. Le tribunal administratif a estimé que pour l'instant et en attendant que le juge se prononce sur la légalité ou non, il ne peut pas suspendre ces réquisitions. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Ils sont près d'une dizaine de personnes réquisitionnées par les autorités pour la plupart. Il faudra faire 3 mois au front. Des leaders d'opinion, organisations de la société civile et syndicats, très critiques de la gestion du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Ces personnes ont estimé qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières et une tentative de les museler. Réunis autour d'un collectif d'une dizaine d'avocats, elles ont attaqué ces décisions. Mais le tribunal administratif, qui a statué en référé, a estimé qu'il ne pouvait pas suspendre ces réquisitions, invoquant des questions de sécurité. Ladji Bama, un journaliste réquisitionné et en séjour hors du pays.
À chaud, je ne peux que prendre acte de cette décision, mais pas encore la motivation du juge. Je ne peux pas encore me prononcer sur sa justesse ou non. J'attendrai de voir les motivations du juge pour mieux apprécier. Nous n'allons pas nous en tenir à là. Nous allons poursuivre jusqu'à l'épuisement total de toutes les voies de recours à notre disposition. Pour ce qui me concerne, ces décisions de réquisition sont totalement arbitraires, illégitime, injuste et inique. Je n'entends pas vraiment me soumettre à ces décisions-là.
Maître Prosper Faraba, avocat du collectif des personnes réquisitionnées.
Tout en respectant la décision, nous ne partageons pas le point de vue de la juridiction, parce que pour nous, nous avons démontré devant la juridiction que ces décisions-là, si même si elles ont été qualifiées de décisions entrant dans le cadre de la sécurisation, mais étaient en vérité des décisions de sanction, parce que c'est d'où nous avons plaidé la question, donc, du détournement de pouvoir, qui, c'est vrai, a été pris par des autorités dans un cadre prévu par la loi, mais pour d'autres objectifs. Donc nous estimions qu'au fond, d'un point de vue légal, ce n'était pas des décisions relatives effectivement à la question de la sécurisation. Si nous faisons ces procédures, comme nous l'avons dit d'entrée, ce n'est ni par défiance, ni par provocation. Nous pensons que cette voie est meilleure que celle des machettes.
Pazien est analyste politique.
Est-ce que cette loi portant sur la mobilisation générale, est-ce que l'esprit de cette loi est respecté? C'est la question qui se pose. Est-ce que ce n'est pas parce que ces personnes la critiquent également? Je pense que ça deviendra un débat d'idéologie. Dans la mesure où c'est l'intérêt général qui est brandi, il est difficile de mener un débat contre cela. Parce que même la liberté d'expression, dans de telles circonstances, vous savez qu'en cas de mobilisation générale, l'exécutif a les moyens donc de restreindre juridiquement cette liberté, et cette restriction-là On ne va pas dire a priori, en tout cas dans la forme qu'il s'agit d'une violation, il va falloir attendre que le juge se prononce au fond.
Les avocats ont annoncé qu'ils feront appel de la décision du tribunal administratif. Ils ont aussi assuré qu'ils vont user de toutes les voies de recours possibles pour faire triompher la vérité. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, le salon de l'automobile de Los Angeles a démarré. Il est plein de flash, de vitesse et de nouvelles innovations. Davantage avec Angelina Bagdasarian et Anna Rice. Récit, Yacouba Ouedraogo.
Le 17 novembre, le salon annuel de l'industrie automobile a ouvert ses portes à Los Angeles. Cette année, David Fortin, qui travaille pour le salon de l'automobile, explique que l'accent est mis sur les énergies propres.
Cette année, tous les constructeurs automobiles ont un véhicule tout électrique sur le plancher, ce qui est une première dans l'histoire du salon. Cette année, nous avons créé un centre de découverte des véhicules électriques. Il s'agit d'une zone bilingue du salon où les visiteurs peuvent venir poser toutes les questions qu'ils souhaitent.
Une autre voiture en avant-première est la magnifique Lucid Gravity. Créée par Peter Rawlinson, ancien ingénieur de Tesla, elle est considérée comme le concurrent direct de la Tesla X. Le prix de départ de la voiture est de 80 000 $. Jake Berg d'Acura était sur place pour présenter le SUV électrique le plus en vogue de la marque.
Sur le stand Acura, pour le LA Auto Show, nous avons la toute nouvelle Acura ZDX qui est notre premier SUV entièrement électrique. Nous avons deux versions ici. Celle qui se trouve derrière moi est cette magnifique perle œil de tigre. C'est la nouvelle ZDX type S qui a une puissance de 500 chevaux.
À partir de 2035, le gouvernement de l'État de Californie prévoit d'interdire la vente de nouvelles voitures à essence. La Californie est un leader dans le domaine des véhicules électriques. Mais selon la Commission californienne de l'énergie, seuls 25% environ des ventes de voitures neuves concernent des véhicules électriques. Néanmoins, l'industrie automobile se prépare à un avenir électrique. Le salon de l'automobile va refermer ses portes le 26 novembre.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Aujourd'hui, fin de cette édition. Alexandrine Collognon en direct de Washington. Merci d'avoir été des nôtres et vous pouvez réécouter cette édition sur voafrique.com. Je remercie la rédaction et Lionel Gaillement qui a assuré la production. Continuez de vous informer à travers nos réseaux sociaux et excellente suite de programmes sur VOAfrique.